Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour, soyez les bienvenus dans votre cabinet de curiosité du samedi. Vous allez bien, Thomas ?
Ça va très bien, on est ensemble jusqu'à 15h. Bienvenue à vous, les curieux.
Comme chaque week-end, on vous fait découvrir ou réécouter les meilleurs moments de l'émission.
Tiens, par exemple, elle est née dans les années 20. Elle s'est infiltrée partout dans la BD, les séries, l'art, la musique et même les vêtements.
Mais elle, c'est qui ?
Bah, c'est la pop culture. Mais qu'est-ce que la pop culture, me direz-vous ? Vous saurez tout dans la seconde partie de l'émission.
Et tout de suite, on pousse la porte des grands magasins et on vous raconte leur histoire sur RTL.
RTL.
Dans les années 1860, on vient ici du monde entier. Madame traverse la Seine et se rend au Bon Marché qui vient d'ouvrir.
Dans les grands magasins, on vend des petites poupées.
C'est le premier grand magasin et c'est vraiment un événement.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans les grands magasins, ours et poupées végètent.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On est dans l'ambiance avec la mise en onde d'André Facetta il y a 200 ans naissaient les premiers grands magasins. Qui est l'inventeur de ce concept, de cet espace, de cette atmosphère? Comment fonctionnait le tout premier du genre, le Bon Marché à Paris? On voyage dans le temps avec notre invitée, l'historienne Renée Grimaud. Bienvenue à vous. Alors, avant les grands magasins qui se développent au 19e siècle, ça ressemblait à quoi les boutiques? Comment on faisait pour faire ses courses?
On poussait la porte d'une boutique, on rentrait dans des petits magasins, des magasins qu'on appelait de nouveautés, et puis on marchandait parce qu'il n'y avait pas de prix fixe à l'époque.
Il n'y avait pas d'étiquette, c'est-à-dire que je devais demander le prix d'une étoffe, d'une casserole?
Voilà, et selon la tête du client, on vous donnait tel ou tel prix.
Alors tout ça, ça a changé en 1791 avec la loi Le Chapelier. Qu'est-ce qu'elle permet, cette loi?
Et la loi Le Chapelier permet à des... En fait, avant, chaque boutique ne pouvait vendre que ce qu'elle fabriquait, sauf les merciers. Et à partir de la loi Le Chapelier, on peut vendre des choses que d'autres fabriquent.
Ah oui, donc on peut être un magasin généraliste cette fois.
Voilà. Ce qui n'existait pas avant, il y avait juste les merciers qui pouvaient vendre des choses très variées, mais les autres ne vendaient que ce qu'ils fabriquaient.
Alors là, on parle des grands magasins. On a cité tout à l'heure le nom de ces grands magasins qui existent toujours d'ailleurs à Paris. Est-ce que on a été en avance? Est-ce que Paris a créé ou inventé les grands magasins? Est-ce qu'on peut dire ça?
D'une certaine façon, oui. Parce que les magasins de nouveautés ont commencé même avant, sous Marie-Antoinette, avec le Rose Bertin, qui avait déjà son premier magasin qui s'appelait Au Grand Mogol. Et puis après, il y a eu Au Tapis Rouge en 1784, qui était du côté de la rive droite.
On les appelait, vous avez dit, des magasins de nouveautés?
Et oui, parce c'est qu'il drôle, fallait ce tout nom. Le temps créer de nouveaux produits pour attirer la clientèle et surtout la clientèle féminine.
On va rencontrer maintenant un personnage extraordinaire, c'est l'inventeur, en quelque sorte, du grand magasin, c'est Aristide Boussicot. D'où vient-il?
Il vient de l'Orne. Il était commis et puis il a travaillé dans un petit magasin qui s'appelait le Petit Saint-Thomas, qui était du côté de la rue du Bac et de la rue de l'Université. Ce magasin un jour a fermé et puis s'est développé. Existait déjà le Bon Marché du côté de la rue du Bac.
On est dans le 7e arrondissement à Paris.
On est dans le 7e arrondissement et il est devenu vendeur dans ce magasin.
Mais c'était une boutique ça?
C'était une boutique, d'accord, c'était pas un grand magasin. Ouais. C'était tenu par deux frères qui s'appelaient les frères Vidot et il s'est associé à ses frères. Et du coup, l'entreprise a pris un développement considérable.
Il a fait la fortune de ces frères-là?
Il a fait la fortune, plutôt la sienne.
Ah oui.
Un peu plus que la leur, en révolutionnant le commerce, c'est ça?
En révolutionnant le commerce, et en fait c'est toujours le même schéma. Il avait rencontré une jeune femme, Marguerite Guérin, qui était crémière dans une petite boutique, et ils se sont mariés, et petit à petit, ils ont racheté aux frères Vidot le Bon Marché, et petit à petit, ils l'ont agrandi.
Renée Grimaud, vous publiez La fabuleuse histoire des grands magasins, un très beau livre aux éditions Prisma. On y voit des gravures du Bon Marché qui se trouve rue de Sèvres, dans le 7e arrondissement de Paris. Et sur la porte de ce premier grand magasin, qu'est-ce qu'on peut lire sur l'écriteau?
Entrée libre.
Mais c'est normal.
Incroyable.
Non mais c'est vrai, ça nous semble, c'est pas une info ça franchement. C'était une info ça.
C'était une info parce que enfin les clientes peuvent toucher du doigt les étoffes, elles peuvent essayer ce qu'on ne pouvait jamais faire avant. Avant vous rentriez dans une boutique, vous aviez le maître des lieux qui faisait barrage, il fallait demander ce qui était derrière lui en fait. Et là...
On ne pouvait pas essayer, ça veut dire qu'on repartait avec des vêtements parfois qui ne nous allaient pas.
Exactement.
Et on pouvait les ramener ?
On ne pouvait pas les ramener, bien entendu.
Ah non.
Ah oui, alors que
ramener,
là on peut...
Il fallait marchander, il fallait déjà vouloir rentrer dans la boutique, marchander et ne pas essayer.
Et ça c'est une première idée géniale parce qu'on rentre dans une boutique... On peut toucher les produits, ça ne veut pas dire qu'on va forcément les acheter, c'est aussi, ça devient un lieu de balade en fait,
bien entendu.
Le grand magasin. Oui. Il y a eu cette idée géniale.
Oui, oui, tout à fait. Et en plus, il faut aiguiser les sens des femmes. Donc par exemple, je ne sais plus dans quel magasin c'est, il y avait une fontaine de parfums pour sentir les différentes odeurs que la femme après pouvait acheter sous forme de parfum.
René Grimaud, on est en période de soldes. Les soldes, on les doit à qui ?
Aristide Boussicot.
Pourquoi il a l'idée de créer ces soldes ?
Parce qu'il fallait absolument écouler la marchandise le plus rapidement possible pour fabriquer encore, vendre, toujours plus.
Ça veut dire que c'est aussi lui qui crée les collections ? Il y a une collection de printemps, une collection d'hiver ?
Absolument.
Ouais.
Oui. Il crée les collections, il fait fabriquer énormément de choses et il faut tout le temps renouveler le stock. C'est ça l'idée, une des idées phares, il faut renouveler le stock.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
J'étais un inconnu dans les grands magasins. Je me suis reconnu dans les grands magasins.
Philippe Catherine qui nous chante les grands magasins, l'histoire des grands magasins, c'est ce que l'on vous raconte avec René Grimaud. On l'a vu, tout commence avec le Bon Marché, c'est rue de Sèvres, hein, dans le 7e arrondissement à Paris, imaginé, inventé par cet Aristide Boussicot. Donc si vous nous rejoignez, je rappelle qu'il a à peu près tout inventé, les étiquettes avec les prix, les soldes, les vitrines décorées. En fait, il veut faire de son grand magasin un lieu de visite, un lieu convivial. Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre ?
On y trouve pour occuper les messieurs pendant que les dames font leurs courses. On y trouve un fumoir, on y trouve une salle de lecture, on trouve un salon de jeu pour les enfants.
Salon de thé ?
Un salon de thé, bien entendu. Une fois que les dames ont acheté des tas de choses, elles viennent se délasser au salon de thé.
Mais qui était la clientèle ? C'était plutôt une clientèle bourgeoise ou tout le monde y venait ?
Surtout bourgeoise, oui. Surtout oui. Bourgeoise, parce que c'était une façon de se montrer et une façon de montrer qu'on avait de l'argent. Et c'était aussi un vecteur d'ascension sociale que de, voilà, on va au Bon Marché. Et je ne sais pas si, quand vous lisez Le Bonheur des Dames de Zola, on voit ça, cette rivalité entre femmes, c'est-à-dire une telle achète quelque chose, mais l'autre veut exactement la même chose, ou encore mieux, pour... pouvoir dire « je suis plus riche que toi ».
Alors aujourd'hui, on en rigole un peu parce que le Bon Marché, ça reste le magasin le plus cher de Paris. C'est destiné vraiment à une clientèle très, très huppée. Et pourtant, le Bon Marché, au tout début de son histoire, c'était vraiment Bon Marché parce qu'il y avait tellement de produits et tellement de diversité que ça pouvait permettre de casser un peu les prix pour Aristide Boussicot.
Ah, complètement, oui. Et par rapport à ses concurrents qui prenaient 40 ou 50% sur les prix de plus, lui, il plafonnait entre 13 et 15%. Ce qu'il voulait, c'était vendre le plus possible.
Et alors, si Denis disait tout à l'heure que c'était un bon patron, alors ça veut dire quoi un bon patron dans la France des années 1870 hein, il faut se resituer à cette époque. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il n'y avait pas encore de congés payés, évidemment. Donc, normalement, les gens travaillaient 7 jours sur 7.
Ils travaillaient 7 jours sur 7 et justement, Boussicot a prévu de donner le dimanche férié, ce qui était absolument exceptionnel pour l'époque.
Tous les dimanches.
Tous les dimanches, on ne travaillait pas le dimanche, le repos dominical. Voilà. On ne travaillait pas le dimanche au Bon Marché. C'était aussi...
pour la santé, notamment.
Voilà, il y avait des crèches, il y avait un hôpital. Et les employés étaient logés dans les étages supérieurs. Bon, des petites chambres mal chauffées, etc. Mais elles étaient au moins logées sur place. Comme les vendeuses pouvaient être mises à la porte très rapidement dans l'heure, vous n'aviez pas le droit de vous asseoir, vous n'aviez pas le droit de sourire, vous n'aviez pas le droit de parler entre vous, etc. Et bien, elles se retrouvaient à la rue et souvent, elles finissaient prostituées. Et donc, pour protéger les jeunes filles, c'était surtout Madame Boussicot qui avait pensé à ça. Il y avait des petites chambres de bonne, comme on dit, dans les étages supérieurs, qui servaient de refuge pour ces femmes-là.
Aujourd'hui, à qui appartient le Bon Marché ?
LVMH.
Voilà, un grand groupe du
un
luxe.
Un bon dans l'histoire.
Vous avez parlé de la femme d'Aristide Boussicot, qui est devenue sa veuve. qui a été une bienfaitrice, elle aussi. Vous pouvez nous expliquer comment ?
Qui a été une bienfaitrice. Elle avait, dans son testament, elle avait demandé qu'il y ait beaucoup d'argent pour créer un hôpital, qui était l'hôpital Boussicault, qui est maintenant disparu, mais qui existait pendant plus d'un siècle. Et elle avait fait créer un hospice, une maison pour les filles mères. Il y avait une cantine dans le Bon Marché. Et en plus, c'est elle, alors là, c'est pas du tout dans le cadre de la protection sociale, mais c'est elle qui a créé, qui est à l'origine du Lutetia, de l'hôtel Lutetia, parce qu'il fallait accueillir les clientes fortunées de France et de l'étranger. Il fallait bien les mettre quelque part, donc on les accueillait là.
Ouais, le Bon Marché que vous pouvez aussi aller visiter, pas seulement pour faire des courses, mais aussi parce que la structure a été fabriquée par Gustave Eiffel.
Oui, par l'atelier de Gustave Eiffel.
Donc ça se remarque aussi. Ça.
Absolument.
Alors quand un ancien salarié du Bon Marché a l'idée d'inventer le printemps, c'est l'histoire que l'on vous raconte maintenant, qui est Jules Jaluzot et quelle était son ambition, René Grimaud ?
Mais Jules Jaluzot, il était commis, premier vendeur, etc. Et puis il est monté en grade au Bon Marché. Et puis il a décidé de créer le printemps qui symboliserait l'élégance de la femme. C'était son credo. Et donc, quand il a ouvert son magasin, son premier geste a été d'offrir des violettes à toutes les femmes qui se présentaient. Et après chaque jour, le jour du printemps, le 21 mars, il offrait un bouquet de violettes à chaque dame qui rentrait dans son magasin.
Il avait un slogan aussi, le créateur du printemps, Jules Jaluzot. Quel était-il ?
Et probité des cousses, mon honneur et ma probité. Et on le voyait chevalier comme sur une image d'Épinal.
T'es un peu mégalo alors.
Beaucoup.
Un peu, c'est pas tout à fait la même personnalité. Dans ce livre, qui est vraiment un beau livre, La fabuleuse histoire des grands magasins, qui est publié chez Prisma, alors vous nous faites visiter ce premier printemps. Qu'est-ce qu'on trouvait dans les rayons ? D'abord des tissus, c'est ça ?
Beaucoup de tissus, et puis il avait lancé la fabrication de la soie, une soierie noire qui s'appelait Marie Blanche. Je n'ai pas trouvé pourquoi.
Faut apprécier l'humour.
Voilà, ça doit être sans ça. Doute. Et qui faisait fabriquer par les ateliers de soie des Cévennes. Vous savez, les mûriers des Cévennes. Donc, on fabriquait de la soie dans les Cévennes.
Mais pourquoi cette soie noire, c'était la mode pour faire quoi ? Des déshabillés, des robes ?
Absolument pas, c'était pour des robes.
Ouais.
Robes. Oui.
Mais il y avait que les femmes qui venaient acheter des... Vous nous disiez tout à l'heure, pendant que leurs femmes faisaient le grand magasin, les messieurs se retrouvaient dans un fumoir, etc. Il n'y avait pas des produits pour hommes à acheter ?
Ah si, si. Au printemps, ça a commencé en 1880.
Ah, si,
il y a
vite,
eu d'abord des par-dessus, ensuite des robes de chambre, et puis après des complets jaquettes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Je suis un fleuve, une hirondelle, un ange, un cheval fou dans un grand magasin.
RTL.
Au grand magasin de l'été, rayon du soleil, j'ai acheté des vacances garanties sans pluie. Moi j'ai rêvé d'un magasin grand, le printemps.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour deux francs.
Gilbert Bécaud, Jean Constantin, Jean Ferrat chantent le printemps et les grands magasins qui ont vu le jour il y a 200 ans à Paris, à l'origine de chacun d'eux, des hommes et des femmes qui avaient une passion, des rêves. C'est l'historienne René Grimaud qui pousse avec nous les portes du Bon Marché du printemps et maintenant de la Samaritaine. C'est un grand magasin qui se situe où et qui a existé combien de temps ?
Au Pont-Neuf, du côté de la rive droite, au coin de la rue de la Monnaie. Il a existé à partir de 1869.
Alors j'adore.
Jusqu'en 2005.
Cette histoire incroyable parce que tout commence en 1869 avec un homme et un parapluie rouge. Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il a essayé de vendre des choses et puis ça n'a pas marché d'ouvrir une boutique. Alors, il revient, il s'est promené un peu en France et puis il revient à Paris. Il se dit, bah, tiens, je vais me mettre là, au niveau du Pont-Neuf, avec un parapluie rouge. Et puis, je mettrai des choses dedans et je les vendrai. Des vêtements, des petits vêtements. Et puis, il se dit, il allait jouer au domino chez un cafetier d'à côté. Et puis il dit, tiens, au cafetier, j'aimerais bien louer une salle à l'étage. Et puis, je vais commencer à vendre. Et c'est sa première boutique, et qui s'appelle déjà d'ailleurs, il l'appelle la Samaritaine. Et il l'appelle la Samaritaine à cause de la pompe à feu qui se trouvait sous le Pont-Neuf, qui servait à amener l'eau au Louvre et aux Tuileries.
Feuilletant votre fabuleuse histoire des grands magasins chez Prisma, j'ai découvert, c'est quand même dingue, hein, j'ai travaillé à TF1 pendant des années dans des locaux qui étaient situés rue Cognac Jay. Et je ne savais pas que ce monsieur Cognac s'était marié à une Madame Jay. Alors, c'est quoi cette histoire?
Eh bien, c'est toujours pareil. Madame Jay était vendeuse pas loin. Monsieur Cognac se promenait dans le quartier, rencontre Madame Jay. Mmh. Ils se marient. Et puis, ils avaient tous les deux le sens du commerce, un sens exacerbé du commerce. Et ils passent leur temps à agrandir la Samaritaine, à travailler à la Samaritaine. Ils visent une clientèle populaire, pas du tout une clientèle très chic, comme c'était le cas au Bon Marché ou au Printemps.
Et ils avaient une devise, notamment ce couple Cognac Jay, Per Laborem.
Ah oui, pour le travail, par et pour le travail. Passaient leur temps à ça. Le dimanche, ils refaisaient les comptes, ils regardaient les vitrines, si elles étaient bien arrangées ou pas. Et ils étaient assez durs quand même, parce que Monsieur Cognac, ses employés l'appelaient la bohème, donc le travail.
C'était clair au moins.
Père la bohème.
Donc là, on n'est pas tout à fait dans la philosophie de Monsieur Boussicot et du Bon Marché. Sont moins des patrons sociaux.
Sont moins des patrons
sociaux. Patrons de la Samaritaine à l'époque.
Mais quand même, ils n'avaient pas eu d'enfants, donc ils ont créé des tas d'œuvres de bienfaisance également.
D'accord.
Crèches, un centre d'apprentissage pour les employés.
Ils prenaient grand soin des orphelins de Paris.
Ils prenaient grand soin des orphelins de Paris. Il y avait un centre aussi pour eux. Et ils ont même créé, après eux, je crois, il y a eu un prix de familles nombreuses. Comme ils n'avaient pas eu d'enfants, ils ont dû se dire, on va créer un prix pour les familles nombreuses.
Donc c'est un peu un mélange d'autorité et de paternalisme que vous nous décrivez là.
Complètement. Les hommes devaient s'habiller d'une certaine façon, les employés devaient s'habiller d'une certaine façon, tout en noir. Les femmes étaient en blanc, en noir. Donc, comme d'habitude, on ne pouvait ni s'asseoir, ni parler, etc. Mais en même temps, il y avait quand même toute une... des œuvres de bienfaisance en leur faveur.
Alors on est passé du premier étage, petite pièce au-dessus du cafetier, à cet immense bâtiment art nouveau tout en fer et en vitraux, hein, la Samaritaine.
Oui.
Ce style et cette charpente métallique a été très critiquée à l'époque.
Elle a été très critiquée.
Pour quelle raison?
Et surtout, ce qui était critiqué, c'était les mosaïques qu'on a ajoutées en plus, qui étaient très colorées. Et les gens du quartier trouvaient que c'était beaucoup trop voyant. On s'affichait trop et que ça n'allait pas du tout.
Il fallait être plus discret alors que...
Il fallait être plus discret.
On faisait du commerce, c'était pour mettre en valeur les produits vendus. Je crois même que les noms des accessoires et des produits étaient inscrits dans le verre.
Absolument. Et Madame Jay avait tellement le sens du commerce que quand une cliente ne trouvait pas ce qu'elle voulait à la Samaritaine, elle offrait ce qu'elle avait. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez dans votre armoire et vous dites, tiens, voilà, j'ai une très jolie robe, voulez-vous l'essayer? Et donc, elle vendait sa robe, elle a vendu un manchon que lui avait offert son mari vendait le parapluie qu'il lui avait offert, etc. Parce qu'il fallait vendre à tout prix.
Merci beaucoup, merci René Grimaud, c'était passionnant, cette fabuleuse histoire des grands magasins. Votre livre, c'est vraiment un beau livre qu'on conseille à nos auditeurs, à la curiosité sur RTL. Il est publié aux éditions Prisma. Merci.
Merci à vous.
Tout de suite, dans la curiosité sur RTL, l'histoire de la pop culture. Ça remonte jusqu'aux années 20.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.